Bonjour et bienvenue dans cette émission du 8 janvier 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos, contrairement à toute la presse subventionnée ou appartenant à des grands groupes économiques. C'est la première émission de l'année sur cette chaîne, donc je vous adresse évidemment tous mes bons voeux. Nous vivrons sans aucun doute des moments absolument passionnants, des moments difficiles aussi, il nous faudra du courage, parce qu'à bien des égards, il se pourrait que 2024 soit l'heure de vérité, l'année de vérité. On sent qu'il y a énormément de choses en travail dans le champ collectif, qu'un ensemble de motifs fondamentaux réprimés par la censure des médias et des milieux politiques sont malgré tout en voie d'émergence, et donc ça sera, à n'en pas douter, une année pleine de rebondissements. Je vous propose sur cette Web TV une nouvelle formule que j'expliciterai en fin d'émission, mais où chaque jour je vous proposerai un format légèrement différent et tous les lundis, et nous commencerons aujourd'hui puisque nous sommes le lundi 8 janvier, je vous proposerai une sorte d'éditorial audiovisuel en faisant une sorte de tour d'actualité d'un certain nombre de questions qui se posent, en rappelant que mon propos est de faire du journalisme citoyen. Alors je rappelle que journalisme citoyen, ça n'est pas d'avoir n'importe qui parle de n'importe quoi, c'est d'avoir des experts compétents dans leur domaine mais qui n'ont plus voix au chapitre dans les médias de connivence, qui viennent porter un certain nombre d'éclairages, comme je le ferais si j'étais invité dans un média traditionnel. Et à travers cette démarche de l'anthropologie du quotidien, c'est-à-dire que l'actualité, ben, ma foi, c'est un champ d'information dans lequel nous baignons de jour en jour. Il y a des informations qui viennent à notre rencontre, diffusées par les médias et les réseaux sociaux. Ça s'inscrit dans notre quotidien. Et donc, ce qui est difficile pour nous, étant donné la nature des informations qui nous parviennent, c'est de faire cas de ces réalités en restant orienté dans une direction qui échappe aux tentatives de manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous le savons tous, le rôle des grands médias n'est pas d'informer sur la réalité du monde, c'est de détourner l'attention des problèmes fondamentaux pour que ceux-ci restent invisibles et de vous distraire, mais également de vous faire réagir. J'ai évoqué la stratégie du hachoir qui vise à diviser la société selon des lignes qui bougent en permanence pour la fragmenter le plus possible. C'est cela le travail des médias. Et donc, un expert comme c'est mon cas est là pour vous proposer des perspectives qui puissent rassembler dans des axes de sens l'ensemble de ce à quoi nous sommes exposés. Je me permets de revenir brièvement sur ce côté compliqué du travail des médias, notamment en relevant que puisqu'ils mettent systématiquement en lumière le négatif, les conflits, les agressions, les faits divers, nous avons comme résultat de l'exposition au contenu de leur travail, l'impression de vivre dans un monde qui va épouvantablement mal. Alors, entendons-nous bien, l'Occident est en plein effondrement et en pleine décadence, donc je vais surtout pas commencer à raconter que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais toujours est-il que nous vivons malgré tout à une époque qui connaît un nombre de conflits, d'homicides très inférieur à ce qu'il a été à n'importe quel moment de l'histoire. Et donc, même s'il y a un ensemble de problèmes qui se posent, c'est vrai que la loupe grossissante et le filtre des médias peut nous conduire, si nous attachons trop d'importance à ce qu'ils nous communiquent et en le prenant de plein fouet, avoir l'impression de vivre dans un monde de cauchemar, alors que Dieu merci, l'immense majorité des populations vivent en paix, l'immense majorité des populations mangent à leur faim, nous avons un développement technique et économique qui nous permet de jouir encore d'un niveau de vie qui est très supérieur à celui qu'il a été à n'importe quel moment de notre histoire. Alors, ça ne doit pas, endormir notre vigilance quand à la mauvaise direction que sont en train de prendre nos politiques publiques, mais il est tout aussi important de nous souvenir que dans nos vies, en réalité, pour l'essentiel, tout va bien. Et il est important de cultiver cette attention au beau, au bon, au juste et au vrai, de sorte à ce que nous soyons aussi mieux outillés pour affronter le négatif. Alors que si nous sommes juste dans le toboggan et les montagnes russes de l'intoxication médiatique, bah effectivement, il y a de quoi devenir parano et perdre totalement confiance en l'humanité. Alors, mon propos aujourd'hui partira d'un constat d'anthropologie politique. Vous avez observé que je cite souvent Michel Maffezoli, il y a plusieurs raisons à cela. Je me suis entre autres formé dans sa filiation intellectuelle, mais aussi parce que je trouve que ses propositions qu'il énonce depuis plus de 40 ans sont tellement pertinentes qu'elles éclairent sous un jour à peu près sans équivalent l'évolution réelle de nos sociétés. Et par exemple, sa thèse de doctorat d'État, qui a été publiée de mémoire en 1978, parlait déjà de totalitarisme doux. Et vous imaginez bien que les lecteurs de cette thèse en 78, ou plus tard lorsqu'elle a été publiée du livre, avaient toute raison de dire « mais ce type est complètement fou, il nous parle de totalitarisme alors qu'on est dans la fin des années 70, au début des années 80 en France ». Mais pourquoi Maffezoli a-t-il cette sagacité? Parce qu'il se situe en fait à la confluence de deux sous-domaines de l'anthropologie, qui sont l'anthropologie politique. Il s'est formé notamment avec Julien Freund à l'université de Strasbourg. Freund qui a beaucoup étudié les conditions de la décadence des sociétés, et notamment dans un ouvrage éponyme, La décadence. Et donc une attention très grande à l'anthropologie politique. Alors c'est pas les sciences politiques. Ce n'est pas la politique politicienne, mais c'est la manière dont la chose publique est gérée à l'intérieur d'une société et la nature des systèmes qui sont mis sur pied pour fournir une gestion de qualité et l'observation notamment de la cohérence de ces systèmes avec l'évolution de la société. Et puis le second grand volet de l'expertise de Michel Maffezoli, c'est l'anthropologie de l'imaginaire, c'est-à-dire ce constat qu'il y a dans toute société une vie invisible, une vie des valeurs, des récits, des symboles, des narrations, des mythes, qui en réalité surdétermine tout un ensemble de phénomènes observables. Et lorsque vous avez les bonnes clés de lecture de l'imaginaire, à ce moment-là, vous pouvez repérer des motifs qui ne sont pas encore visibles dans des manifestations concrètes, mais qui sont déjà en travail, en gestation, dit souvent Michel Maffezoli, des phénomènes à advenir à un moment donné. Et donc, il y a cette métabolisation dans les sociétés humaines, entre les niveaux matériels, concrets et observables, ce que les marxistes appellent l'infrastructure, les structures, c'est-à-dire les grands systèmes éducatifs, politiques, judiciaires, économiques, de maintien de l'ordre qui existent à l'intérieur d'une société, et cet univers des formalisations de sens. Et donc, avec ces deux volets d'expertise, il est vrai que Michel Maffezoli porte depuis des années des analyses dont vraiment tout ne cesse de confirmer la pertinence. Et notamment dans cette idée que nous sommes aujourd'hui dans un moment d'extrême tension, du fait d'un décalage énorme, un découplage même, entre la puissance instituante, c'est-à-dire les populations et ce qui habite leurs préoccupations, leurs valeurs et leur état d'esprit, et des systèmes de gouvernance, les gens au pouvoir, qui, lorsqu'une société est bien accordée, utilise le pouvoir institué au service de la puissance instituante, c'est-à-dire du peuple, de la population, mais qui, lorsqu'une société devient décadente, ont tendance à partir en vrille et ne plus se préoccuper aucunement de l'intérêt collectif dès lors qu'ils peuvent conserver leurs privilèges ou même les accroître de manière parfois totalement insensée ou délirante. Et c'est exactement le point où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu un lent délitement de l'État, mais également de l'éthique dans les systèmes de gouvernance, dont Albert Jacquard, par exemple, nous avertissait au début des années 90 en nous disant « Attention, nous sommes en train de créer une société dangereuse parce que l'hypercompétition qui réside pour accéder au pouvoir conduit à ne voir émerger que des gens qui soit sont sans foi ni loi, soit sont des dociles, des gens soumis, des gens conformes, des gens qui ne vont surtout pas menacer l'ordre établi. » Et ce long processus aboutit aujourd'hui au fait d'avoir des élites, je ne dis pas au sens de les mettre en valeur, mais ceux qui ont effectivement le pouvoir de dire et de faire, qui sont totalement dégénérées. Elles sont dépravées. On sait qu'il y a des orgies sexuelles avec consommation de produits psychotropes à la tête de la France. Au gouvernement, parmi les parlementaires, il y a des cas de viol avec l'utilisation de drogue du violeur ou d'autres substances qui ont été perpétrés de manière répétée par des gens qui actuellement sont au pouvoir. Et puis avec ce blanc-seing C'est-à-dire qu'ils sont, ils se considèrent et ils se vivent comme exonérés des règles qui prévalent pour le commun des mortels. Donc si vous-même, dans votre vie de province, vous faites choper avec 500 grammes de cocaïne, a priori, le juge ne va pas vous laisser partir en disant bah, « c'est pas si grave que ça », ou même « le gouvernement n'interviendra pas pour que vous ne fassiez jamais face à un juge ». Mais avec les gens dont ils s'avisent, c'est littéralement ça. Donc le garde des Sceaux peut se prévaloir du fait qu'il ne savait pas que la prise illégale d'intérêt était illégale. Ah non, monsieur le juge, j'étais pas au courant. Et le juge dit, bon, bah, puisque vous saviez pas, ma foi, on va pas vous condamner. Alors que vous et moi, et le commun des mortels, sommes soumis à cet adage inconfortable s'il en est, que nul n'est censé ignorer la loi. Même si vous ne savez pas que c'est illégal, mais que vous le faites, eh bien, vous serez condamné, parce que vous l'avez commis. Eh bien, ouais, on voit qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement et de ceux qui ont le pouvoir, hein, ce sont toutes les sphères de pouvoir et d'influence, dont le gouvernement ne sont que des pantins, à vrai dire, il y a aujourd'hui quelque chose qui est totalement émancipé de l'état de droit, du fait de devoir rendre des comptes, de devoir respecter la loi et les procédures. Et donc, on est dans une espèce d'orgie, hein, de dérive complètement folle, où ces élites font n'importe quoi, se sucrent éhontément, la corruption n'a jamais été aussi élevée, sont totalement libres de dire n'importe quel mensonge qui leur passe par la tête sans jamais avoir à en rendre des comptes. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai publié récemment « Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid ». Parce qu'on pourrait être tenté de dire « mais laissons ça derrière nous, allons de l'avant, passons à autre chose, ma foi, ce qui est passé, mais non ». Si on ne revient pas sur la réalité de la catastrophe qui a été soigneusement et délibérément organisée par les élites dépravées en question, ben ça veut dire qu'il n'y a plus aucun stop pour la suite. Et au contraire, ce bilan devrait être fait par l'État et ses responsables ou les parlementaires. Mais puisqu'ils sont tous participants de la corruption généralisée qui prévaut, eh bien, votre serviteur s'y est coltiné une fois de plus, et donc j'ai rédigé en 340 pages l'inventaire exhaustif de tout ce qu'il y a à savoir sur cette crise. Mais notamment pour bien aider ceux qui ont encore des doutes à ce sujet à comprendre qu'il ne s'est pas agi de maladresse, il ne s'est pas agi d'erreur, il s'est agi d'une fuite en avant terriblement destructrice de personnes qui, depuis longtemps, n'ont absolument plus le bien de la population à l'esprit comme priorité. Dans ce que nous sommes en train de vivre, évidemment, il y a des crises à répétition sur des sujets différents. Donc on voit cette alternance de faits divers, sanglants, qui sont brandis, avec là encore une impunité souvent des responsables ou de ceux qui n'ont pas su prévenir alors qu'il était de leur responsabilité que ces faits divers adviennent. On voit des conflits comme celui entre la Russie et l'Ukraine avec une propagande éhontée des médias occidentaux. Stupéfiante. N'importe quel connaisseur, comme le colonel à la retraite de l'armée suisse Jacques Beau, qui est un grand spécialiste de cette question, dit qu'il y a plus de propagande en Occident qu'en Russie autour de ce qui se passe réellement en Ukraine. Et puis récemment, bien sûr, le conflit israélo-palestinien. Et qui est d'autant plus redoutable, parce que vous voyez, tous ces différents éléments, mais c'était vrai déjà de la crise Covid, conduisent à la banalisation du mal. Alors, on se souvient tous de l'expression « la banalité du mal ». Hein, c'était cette compréhension qu'avait eue la philosophe Hannah Arendt en assistant au procès Eichmann à Jérusalem. Eichmann qui était un dignitaire nazi, qui avait participé à l'industrie des camps de la mort. Et elle raconte comment elle s'était attendue à voir un sale type, psychopathe, qui fait peur, et pas du tout. Elle est tombée sur un petit monsieur, très poli, bien élevé, qui répondait de manière tout à fait courtoise au tribunal et qui expliquait « mais ma foi, moi je n'ai fait qu'appliquer les ordres, hein, le gouvernement me demandait, je ne savais pas ce dont il s'agissait ». Donc quelqu'un qui, vous voyez, était dans cette banalité du mal. C'est-à-dire que le mal peut être porté par monsieur et madame tout le monde. C'est ça le fond de l'enseignement post-Shoah. Mais pour arriver à cette banalité du mal, encore faut-il passer par la banalisation du mal. Et c'est exactement ce qui est en cours. Alors, la crise Covid avait déjà banalisé le fait qu'on pouvait traiter injustement, attaquer, stigmatiser, ostraciser des gens uniquement parce qu'ils faisaient usage de leur droit de participer ou non à une expérimentation médicale, par exemple. On a violé gravement les libertés fondamentales et les droits constitutionnels sans aucune raison probante. sans que cela ne porte à conséquence, nos États se sont mis à agir de manière criminelle envers leur population, c'est-à-dire envers vous et moi, et tout ceci n'a fait aucun pli. Voyez, c'est devenu acceptable. Et c'est ça qui est terrible. Et le conflit israélo-palestinien, aujourd'hui, procède de la même logique. C'est-à-dire qu'on voit les réactions enflammées de part et d'autre, et notamment cette idée que puisque l'autre a tort, eh bien on peut soit commettre des massacres et des actions terroristes, ce sont des combattants de la liberté qui défendent leur cause, soit bombarder une population captive, enfermée. Hein, déjà le blocus de Gaza est totalement illégal au regard du droit international, Israël n'aurait jamais eu le droit, s'il tenait compte du droit, de procéder ainsi, mais quand en plus vous déversez des tonnes de bombes sur une population captive qui n'a aucun moyen de se cacher, c'est juste l'horreur absolue. Or, qu'entend-on ? Ce sont des défenseurs d'Israël, beaucoup sur les plateaux de télévision en France, venir expliquer que non, non, puisque le Hamas a commis un massacre, et ben ma foi, c'est légitime de déchiqueter 10 000 enfants palestiniens, des femmes, de les priver de soins, d'hôpitaux, de subsistance. Ma foi, le Hamas n'avait qu'à pas attaquer. Et vous voyez, là, ça veut dire que des pans entiers de nos populations sont en train de basculer dans la monstruosité. Alors je rappelle une fois de plus, parce que c'est ma position, comment est-il envisageable d'en avoir une autre quand on n'a pas été pris dans l'hypnose collective de la déshumanisation ? C'est qu'il faut d'urgence libérer Israël du gouvernement suprémaciste, raciste et psychopathe qui est à sa tête. Et qu'il faut urgemment libérer les Palestiniens du Hamas. Parce que vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est que ces gens qui prétendent représenter et gouverner leur peuple, au fond, ne font que se précipiter dans le cycle de la haine et de la mort à perte de vue. Et donc aujourd'hui, pour le Hamas, c'est du pain béni que ces milliers d'enfants déchiquetés. Le Hamas, il est ravi. Hein, ça lui permet de se profiler comme le vrai défenseur de la cause palestinienne, là où le Fatah et l'OLP n'étaient parvenus à rien. Et puis, dans un récent communiqué de la résistance palestinienne à Beyrouth, on a vu ça. Gloire à nos martyrs. Le peuple palestinien sera plus fort que tout. Et vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est, je l'ai dit d'emblée, il y a une collusion entre Netanyahou, les suprémacistes juifs délirants. Parce que ça n'est pas parce que le nazisme est israélien qu'il faut ne pas l'appeler nazisme. Hein ? Et en ce qui me concerne, la population israélienne aujourd'hui est prise en otage par un gouvernement qui est devenu psychopathe, paranoïaque et destructeur. Mais c'est également le cas du côté palestinien. Et donc on voit bien, malheureusement, hein, comme toujours dans les cercles de haine, Netanyahou a besoin du Hamas, il l'a suscité, il l'a financé, il l'a fait arriver à tous les leviers du pouvoir à Gaza. Tout ça est une opération comme Daesh et ISIS, sont des créatures d'Israël. Sont d'anciens hauts responsables militaires israéliens qui le disent. C'est nous qui avons créé ces groupes hyper-terroristes. Et puis les groupes terroristes, bien sûr, ont besoin que la population palestinienne soit martyrisée pour pouvoir continuer à se profiler avec gloriole. Et comprenez-moi bien, j'ai dit d'emblée, connaissant la brutalité des Israéliens et de Tsahal, l'attaque du Hamas, les massacres commis en Israël sont... vont déclencher une réponse totalement démesurée. Ben, ça n'a pas manqué. Donc, bien sûr que le Hamas est aussi responsable de ce qui arrive, mais sans exonérer Israël de cette réalité que si, je sais pas, quelqu'un d'une famille vient, à Dieu ne plaise, blesser ou tuer un membre de ma famille, je ne vais pas aller massacrer 100 personnes dans sa famille pour me venger. Or, c'est exactement ce qu'Israël est en train de faire. Elle tue des civils et des innocents par dizaines de milliers pour se venger du fait d'avoir été attaqué. Et ça, c'est une monstruosité. C'est régresser à l'état de barbarie. Et ce qui est tragique, c'est tous les relais qu'ont sur les plateaux de télévision en Occident, ceux qui défendent une monstruosité pareille. Et qui, une fois de plus, n'est pas une seconde conforme à l'intérêt d'Israël et de la population israélienne. C'est une fuite en avant psychopathologique grave. Et donc, il est important que nous renoncions, nous refusions d'être otages de cette hypnose et de cette fuite en avant. Alors malheureusement, nous faisons tous l'expérience que la rationalité n'est pas de grand usage par rapport à ça. Ça n'est pas en cherchant à expliquer rationnellement les choses autour de la crise Covid, autour de la situation en Palestine, Israël, que cela s'éclaire. Parce que les gens qui ont basculé dans la déshumanisation et la folie totalitaire ne sont pas raisonnables. On ne peut plus les raisonner. Ils sont dans la folie raisonnante. Par contre, nous avons à continuer à faire usage de rationalité pour garder notre assise, mais surtout pour continuer à nommer la réalité de ce qui se joue, où et comment et de quelle manière. Alors un autre élément intéressant qui est sorti cette semaine, mais là encore je rappelle qu'une journaliste américaine a témoigné, et demain je donnerai tout le détail des sources de ce que je cite ici, a témoigné qu'il y a 3 ans, elle avait tout à disposition pour faire émerger l'affaire Epstein, et notamment la présence multiple de Bill Clinton sur l'île des pédophiles. Elle avait tout, et elle en a été empêchée par sa rédaction. Et quand elle raconte cela aujourd'hui, elle en a les larmes aux yeux. La réalité de l'affaire Epstein est cataclysmique. Car de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un type, prof de maths, professeur de mathématiques, sans fortune, et qui, très rapidement, se retrouve à la tête d'une fortune estimée entre 500 et 800 millions de dollars. Je ne sais pas quelle est votre profession, si vous êtes prof de maths ou anthropologue indépendant comme moi, il est peu probable que nous nous retrouvions rapidement à la tête d'une fortune de 800 millions de dollars. Et à partir de là, il devient une figure en vue de l'establishment new-yorkais, avec des propriétés luxueuses dans le monde entier, y compris en France, et il organise, pour le compte de la CIA et du Mossad, cela est avéré aujourd'hui, des responsables du Mossad et de la CIA l'ont admis, à mettre sur pied un business de chantage des gens puissants aux États-Unis et à travers le monde, en leur faisant violer, en les invitant à venir violer des enfants. Tout ceci est filmé et permet d'avoir la main mise sur les cercles de pouvoir en Occident. Et si Israël a aujourd'hui un tel blanc-seing, une telle possibilité de faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire notamment de massacrer des milliers de civils les yeux fermés sans qu'il n'y ait réellement de réaction dans les pays occidentaux, c'est bien sûr l'hypothèse qui doit nous venir à l'esprit que les élites en question sont tenues par les services israéliens. Et c'est exactement à cela que servait l'opération Epstein. Donc, vous avez des centaines d'enfants qui ont été violés et potentiellement tués sur l'île maudite des Caraïbes et dans les différents lieux qu'habitait Epstein, y compris en France, au su des gouvernements. La veuve de John McCain, l'ancien candidat républicain à l'élection présidentielle, l'a dit, nous savions tous, nous étions tous au courant de ce qui se passait. Dans cette pédocriminalité organisée, et aujourd'hui, des années après qu'on ait été informé de ça, quelques années après le suicide, soi-disant suicide, les relevés d'autopsie et son frère, Mark Epstein, vient de donner une interview à Tucker Carlson à ce sujet, montrent que c'était en fait toutes les marques d'une strangulation et non pas d'un suicide par pendaison avec des draps de prison. Mais enfin, quoi qu'il en soit, des années après, tout ceci reste recouvert d'un couvercle de plomb. Donc là, effectivement, une juge new-yorkaise a publié un ensemble de documents, et notamment des relevés d'interrogatoires de témoins, et notamment de jeunes femmes violées, jeunes filles, jeunes femmes violées dans le cadre de cette opération criminelle. Et donc, voilà, on a la confirmation que Bill Clinton, l'ancien président américain, est un pédophile. Une témoin dit, il les préfère jeunes. Jeunes, quand on sait que les viols commençaient à l'âge de 10 ans, et probablement en dessous sur l'île d'Epstein, 10 ans, on est sûr, il y a un témoin qui l'a dit, j'ai été violé jusqu'à 3 fois par jour à partir de l'âge de 10 ans. Ben, on voit bien ce qui hantait ce monsieur. Bill Gates y allait à réitérer reprise. Vous croyez que qui que ce soit aurait été inquiété par rapport à ça ? Rien. Ce qui est important, c'est la liste des violeurs d'enfants de l'île d'Epstein. Les documents existent. Le FBI en a pris possession. Croyez-vous qu'il y ait quoi que ce soit qui ait jamais fuité ? Et puis, on vient de voir apparaître, je développerai également ça demain, une connexion, figurez-vous, entre les manigances de Jeffrey Epstein et le Covid-19. Oui, oui. Parce que Une des entreprises spécialisées dans les gains de fonction qui a commencé à faire affaire avec Peter Daszak de Echo Health Alliance, pour ceux qui connaissent le dossier, je le redévelopperai demain, donc si vous ne connaissez pas, ce n'est pas important de comprendre tous les détails à ce stade, eh bien, était dans les bons papiers d'Epstein et financé par Jeffrey Epstein. Donc on voit émerger vraiment un scénario d'horreur, mais qui ne fait que confirmer que les gens qui sont au pouvoir à travers nos pays sont des monstres, des psychopathes, des pédocriminels qui connaissent ou laissent faire ou sont eux-mêmes victimes de chantage de la part de ceux qui détiennent les preuves de ce à quoi ils se sont livrés. Faut-il rappeler que dans les documents conservés par Donald Trump et récupérés par le FBI à Mar-a-Lago, il y avait un dossier sur Emmanuel Macron. Et donc, voilà, on a tout cet éventail de choses qui grenouillent, et avec, malheureusement, cette presse qui est un véritable poison pour la démocratie, qui est l'ennemi des démocraties. Donc Le Point, qui est un épouvantable canard, épouvantable, qui n'a cessé de tirer à boulet rouge sur Didier Raoult, l'IHU et tous ceux qui soignaient les gens pendant la crise Covid, vient de republier un article en interrogeant qui, bien sûr, Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch, sur le thème « Pourquoi l'affaire Einstein excite-t-elle autant les complotistes ?» La vraie question, c'est pourquoi les médias comme Le Point ne s'y intéressent pas et ne travaillent pas à faire savoir ce qu'il en est, à faire connaître ce qu'il y a à connaître. Mais évidemment que la réponse, vous la connaissez comme moi, ils sont corrompus de la cave au grenier. Ils participent à l'opération d'enfumage de la population et nos médias, aujourd'hui, je le dis ouvertement, les médias mainstream sont devenus le pire ennemi des populations des pays où ils existent. Et donc, nous avons à nous protéger et même possiblement à mettre en échec cette machine de propagande, sachant qu'en France, par exemple, elle est aujourd'hui entièrement payée par le contribuable. Donc voilà un peu ce qui me tenait à cœur de partager avec vous. Évidemment, quand il y a un tel décalage entre ceux qui ont le pouvoir et les populations, ça crée des zones à très haute incertitude. Relevons malgré tout que la population n'est pas dupe. On le voit par exemple avec les invitations à une nouvelle injection génique expérimentale, répétée obsessionnellement par ceux qui détiennent le pouvoir, et on voit que la population ne marche plus. Donc il y a cette sagesse populaire dont parle Maffezoli et qui pense haut et dit parfois « court toujours hein ». Mais évidemment que c'est une situation très volatile et qui est susceptible de déboucher sur des contestations majeures. On le voit actuellement en Allemagne, le pays aujourd'hui même est sous blocus des agriculteurs et des routiers avec une manifestation d'une intensité et d'un volume absolument sans précédent. Mais en comprenant bien que c'est l'incapacité de ceux qui ont le pouvoir de tenir compte du sentiment de la population qui nécessairement pousse à des situations où les soulèvements vont être de plus en plus violents. Il m'est arrivé de rappeler que lorsque sous Mitterrand, la loi Savary, il a été question de porter atteinte à l'enseignement privé, il y a eu 1 million de personnes dans les rues de Paris, le gouvernement a fait marche arrière. Sous Chirac, c'était pareil. Mais avec Macron, qui lui-même est vraiment un sociopathe extrêmement dangereux, qu'est-ce qui se passe s'il y a 1 million de personnes dans la rue? Il envoie les CRS, des troupes d'élite formées aux fins de casser du manifestant, et il réprime ça dans le sang, sans état d'âme. Et il le fera, il ne reviendra jamais en arrière sur rien. Et donc, il n'y a d'autre source pour la population et la puissance instituante, à un moment donné, que de se soulever et de renverser celui qui, en termes de philosophie politique, est devenu un tyran, répond à toutes les caractéristiques du tyran. Donc nous sommes vraiment dans une espèce de moment qui rappelle la décadence romaine. Vous vous souvenez que Caligula avait nommé son cheval consul. Si Macron envisage, comme on le dit aujourd'hui, de nommer François Bayrou Premier ministre, on n'est quand même pas très loin de ce cas de figure. Mais toujours est-il qu'il y a donc une élite dégénérée, criminelle, mafieuse, véreuse, qui se cooptent en permanence, qui exonèrent des règles qu'ils imposent violemment aux autres, et que ceci ne pourra conduire qu'à des moments de tension extrême tôt ou tard. Il n'en importe que plus d'être vigilant, d'être motivé, d'être engagé, de ne pas lâcher le morceau, et puis évidemment que cette année nous réservera à n'en pas douter bien des surprises, mais avec le risque que des nouvelles crises et de nouveaux détournements d'intention soient mis en œuvre pour continuer à nous garder dans le toboggan qui conduit vers quoi ? Vers la guerre, et notamment un conflit nucléaire, sachant que la guerre est toujours l'aboutissement des délires totalitaires et paranoïaques tels que ceux qui se sont emparés de nos pays. Alors nous avons des cartes en main à jouer pour nous y opposer, et ma foi, nous les jouerons de notre mieux au fur et à mesure des jours qui passent. Je vous ai annoncé en introduction un changement de format de cette Web TV à partir de désormais. Donc le lundi, je me permettrai un ad-lib, un éditorial libre comme je viens de m'y livrer. Mardi, il y aura une émission traditionnelle comme j'ai l'habitude de les faire avec énormément de sources et de références de sorte à ce que tout soit vérifiable. Mercredi, je vous proposerai une capsule sur la route de sorte à mettre aussi un peu de mobilité dans ma production. Le jeudi, je reviendrai sur tel ou tel élément qui aura pu vous intéresser dans les développements de début de semaine. Et le vendredi, je conclurai la semaine par une revue d'actualité pour nommer toutes les choses qui m'ont paru intéressantes, qui sont parues cette semaine, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles. Voilà. Il me reste à vous remercier de votre soutien. Je vous rappelle que des chaînes comme la mienne ne tiennent que grâce à votre soutien. Et donc toutes les donations ou les abonnements auxquels vous pouvez avoir envie de souscrire, prix normal de 9 euros par mois, abonnement possible à partir de 1 euro pour ceux pour qui leur situation matérielle rendrait difficile de payer le tarif normal. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire, le cas échéant, une donation de votre choix. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne lâche rien. Je continuerai à vous proposer ces différents contenus. Et je vous donne rendez-vous demain, mardi 9 janvier, pour une émission complète sur l'affaire Epstein et les nouvelles attaques contre le professeur Raoult et le traitement à l'hydroxychloroquine. À bientôt. Merci.